Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mardi 20 novembre 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Alberton.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, le candidat de la coalition au pouvoir, Emmanuel Ramazani Shadary, présente son programme.
Au Nigeria, les deux principaux candidats à la présidence, Mohamedou Buhari et Atiku Abubakar, présentent de leur côté leur programme de gouvernement.
À Madagascar, l'ancien chef de l'État, Andry Rajoel, a dénoncé hier des manipulations dans les résultats du premier tour de la présidentielle.
Ici aux États-Unis, trois personnes, dont un policier, ont été abattues au cours d'une fusillade à Chicago, dans l'Illinois.
Au Yémen, les rebelles houthis et le pouvoir se sont dit favorables hier aux efforts de paix de l'ONU.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, Emmanuel Ramazani Shadary, le candidat du Front commun pour le Congo, la coalition au pouvoir, a dévoilé hier son programme, et ce, à trois jours du lancement de la campagne pour l'élection présidentielle du 23 décembre. Le point avec Raissa Girondin.
Après avoir salué le bilan du président Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001, Emmanuel Ramazani Shadary a décliné son programme autour de quatre axes. Le renforcement de l'autorité de l'État, la diversification de l'économie et garantie de l'emploi, la lutte contre la pauvreté et garantie de l'accès aux services publics et enfin la démonstration de l'importance géostratégique de la RDC. Il a promis lundi 86 milliards de dollars pour le développement de son pays sur 5 ans. Au chapitre international, M. Ramazani Shadary, 58 ans, ex-ministre de l'Intérieur, a déclaré qu'il voulait sensibiliser la communauté internationale sur le terrorisme qui a élu domicile dans le nord-est du pays. Des tueries attribuées au groupe armé ADF dans la région de Beni compliquent la riposte contre le virus Ebola et pourraient même menacer cette élection qui a déjà été deux fois reportée. La commission électorale a retenu 21 candidatures pour la présidentielle du 23 décembre. Les grands ténors de l'opposition n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un candidat commun pour ce scrutin à un tour. La campagne commence dans deux jours, le 22 novembre.
Au Nigeria, le président Mohamedou Buhari et son principal rival, Atiku Abubakar, ont, eux, donné hier le coup d'envoi de la campagne présidentielle à trois mois du scrutin prévu le 16 février 2019. Nani Talani fait le point.
Les électeurs nigérians devront choisir leur président parmi 78 candidats, mais le véritable duel va opposer le président sortant Muhammadu Buhari et le chef de file de l'opposition Atiku Abubakar. Il y a quelques mois, M. Buhari, 75 ans, était quasiment assuré d'une victoire face à une opposition divisée, mais son parti a subi des revers et des défections en série. Atiku Abubakar, ancien vice-président âgé de 75 ans, est un homme politique bien connu. Sa réputation d'homme très riche a été ternie par des accusations de corruption ou des scandales liés à des conflits d'intérêts, mais ses détracteurs n'ont jamais réussi à le faire comparaître en justice. Il a toutefois réussi à rassembler des déçus de la présidence de M. Buhari, dont l'image a souffert du ralentissement de l'économie, tout comme de graves problèmes sécuritaires. M. Abubakar entend miser sur son succès en tant qu'homme d'affaires pour remettre le Nigeria au travail, alors que M. Buhari a placé la lutte contre la corruption au cœur de son discours électoral.
Nous reviendrons sur la campagne électorale au Nigeria en seconde partie de cette édition.
À Madagascar, l'ancien chef de l'État, Andry Rajoel, arrivé en tête du premier tour de la présidentielle du 7 novembre, a dénoncé hier des manipulations dans les résultats. Il a demandé à la justice de trancher, Morgane Guiriec.
On a gonflé le nombre des inscrits et distribué aux autres candidats les voix obtenues par Andry Rajoel, a-t-il déclaré hier dans la capitale malgache. Il a annoncé sa décision de saisir la Haute Cour constitutionnelle afin qu'elle tranche sur ses problèmes, promettant une victoire à ses partisans rassemblés devant son quartier général. Son rival, Marc Ravalomanane, n'a pas encore annoncé s'il allait saisir la plus haute juridiction du pays. Il avait lui aussi dénoncé des défaillances lors du premier tour. Andra Joël a décroché 39,19% des suffrages devant l'ancien président Marc Ravalomanane, 35,29%, selon les résultats publiés samedi par la Commission électorale nationale indépendante. Les candidats ont jusqu'à mardi pour déposer leur recours. La HCC doit proclamer d'ici fin novembre les résultats définitifs après examen des requêtes des candidats. Un second tour devra donc départager les deux frères ennemis le 19 décembre.
Le commandant d'une milice libyenne, Salah Badi, a été placé hier sur la liste noire des sanctions américaines dans la foulée d'une mesure similaire du Conseil de sécurité de l'ONU. Le département d'État américain reproche à Salah Badi d'œuvrer au sabotage du gouvernement et de la stabilité de la Libye depuis 2014. Monsieur Badi est l'un des dirigeants du Front al-Soumoud et de Fajr Libya, qui ont tous deux défié la fragile coalition du gouvernement d'union nationale soutenue par l'ONU.
Le Maroc et l'Espagne se sont prononcés hier pour le renforcement de la coopération sur l'immigration. C'était à l'occasion de la première visite officielle à Rabat du chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez. Selon son homologue marocain Saad Eddine Al-Othmani, Rabat fait tout ce qui est en son pouvoir en matière de lutte contre l'immigration clandestine. La question migratoire est complexe et ne peut être réglée uniquement par une approche sécuritaire, a-t-il ajouté, soulignant qu'il fallait privilégier le développement des pays de départ en Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, trois personnes, dont un policier, ont été abattues au cours d'une fusillade survenue lundi près d'un hôpital de Chicago dans l'Illinois. Selon les autorités américaines, la fusillade serait due à une dispute personnelle. Le tireur est lui aussi mort. Chicago, la troisième ville des États-Unis, est gangrénée par une violence endémique liée à la guerre des gangs et au trafic de drogue. En 2017, 675 meurtres y ont été enregistrés, plus qu'à New York et à Los Angeles cumulés. 2785 fusillades y ont également été recensées, selon les statistiques de la police locale.
Trois sénateurs démocrates ont intenté une action en justice pour bloquer la nomination de Matthew Whitaker par le président Donald Trump au poste de ministre de la Justice par intérim. Selon eux, cette nomination n'a qu'un seul but, compromettre l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016.
La Maison-Blanche a rendu son accréditation à Jim Acosta, le correspondant de la chaîne CNN, mis au banc il y a deux semaines après un échange houleux avec le président Trump. Mais elle a averti notre collègue qu'il pourrait perdre encore cette accréditation s'il ne respecte pas les nouvelles règles fixées pour le déroulement des conférences de presse. En réaction, CNN a estimé que la Maison-Blanche avait reculé et donc elle a décidé de renoncer à son procès contre la présidence américaine.
En Haïti, la police nationale a annoncé hier que trois personnes ont été tuées par balle dimanche au cours de manifestations contre la corruption et contre le pouvoir en place. L'opposition, pour sa part, parle de 11 tués à travers le pays. La situation est restée tendue lundi, particulièrement dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, désertée suite à un appel à la grève lancé par l'opposition qui a manifesté dimanche pour réclamer la démission du président Jovenel Moïse.
Au Yémen, les rebelles houthis et le pouvoir se sont dit favorables hier aux efforts de paix de l'ONU, ouvrant la voie à de nouvelles négociations pour un règlement politique du conflit qui ravage le pays depuis plus de 3 ans. Jean-Roger Bion.
Oui, la diplomatie ne ménage aucun effort alors que sur le terrain ont lieu les combats les plus violents dans la ville de Hodeida. L'émissaire de l'ONU, Martin Griffiths, a proposé la tenue de pourparlers à Stockholm devant le Conseil de sécurité de l'ONU avec à la clé un projet de résolution porté par la Grande-Bretagne demandant une trêve dans la ville et le passage sans obstacle de l'aide humanitaire. M. Griffiths a dit qu'il tablait sur un démarrage de négociations dans quelques semaines et le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a indiqué qu'elle pourrait avoir lieu début décembre. Le gouvernement du président Abd Rabo Mansour Hadi, soutenu par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, a déclaré qu'il enverrait une délégation à Stockholm. Avant lui, le chef rebelle Mohamed Ali Al-Houthi avait exhorté ses partisans à mettre fin aux tirs de missiles et drones et proposé de cesser toutes les opérations militaires sur tous les fronts pour montrer les bonnes intentions des rebelles. M. Griffiths a salué l'annonce rebelle et souhaité que toutes les parties poursuivent leurs efforts de retenue pour créer un environnement propice à la tenue de consultations.
L'émissaire onusien pour la Syrie a averti hier qu'il était prêt à jeter l'éponge dans la mise sur pied d'un comité chargé de rédiger une nouvelle constitution si un accord n'était pas trouvé d'ici la fin décembre. Depuis janvier, le médiateur Staffan de Mistura, qui doit quitter ses fonctions fin novembre, travaille sur la composition du comité qui doit comprendre, selon son plan, 150 personnes. 50 choisies par le régime, 50 par l'opposition et 50 par l'ONU pour inclure dans la réflexion des représentants de la société civile et des experts. Le gouvernement syrien s'oppose à ce que des leaders religieux, des représentants de groupes féministes ou des experts indépendants puissent faire partie de ce comité. Celui-ci serait chargé de plancher sur une loi fondamentale permettant de mener à des élections afin de tourner la page de cette année d'une guerre dévastatrice. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanik Talani.
Le Rwanda obtient de la Banque mondiale 125 millions de dollars pour l'expansion de ses services électriques. Ce projet s'articulera autour de l'impact de la fiscalité sur le secteur électrique. Il permettra aussi d'améliorer l'efficacité opérationnelle, la fourniture électrique à un prix abordable, ainsi que la comptabilisation des services électriques. Les autorités rwandaises espèrent pouvoir connecter 154 000 nouveaux foyers et entreprises au réseau électrique pour la nouvelle année fiscale. En Angola, la dernière vente de diamants alluviaux provenant de la mine Loulo a généré 4,2 millions de dollars. Lucapa Diamond et ses partenaires rapportent avoir vendu 3411 carats à un prix moyen par carat de 1220 dollars. Le Kenya recevra de la Banque africaine de développement une assistance financière de 236 millions d'euros pour l'achèvement de la construction du barrage de Twakedam dans le sud du pays. Ce barrage de 80,5 mètres vise à approvisionner les populations en eau potable, à produire de l'énergie hydroélectrique et à développer l'irrigation. En Tunisie, le produit intérieur brut a enregistré une croissance de 2,6% durant les premiers 9 mois de 2018 par rapport à 2017 selon les données publiées par l'Institut national de la statistique. L'amélioration de l'environnement sécuritaire a conduit à une augmentation des recettes du tourisme et à une demande accrue de la zone euro, ce qui a jeté les bases d'une reprise de la croissance dans le pays.
À présent, les sports avec Yakuba Ouédraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Deuxième journée des matchs de poule de la CAN Ghana 2018 ce soir.
Oui, dans le groupe A, le Ghana pays hôte tentera d'enchaîner face au Mali. Après sa victoire en match d'ouverture 1-0 devant l'Algérie, les Maliennes n'ont plus droit à l'erreur, elles qui ont perdu d'entrée 2-1 face au Cameroun. Juste après ce match, le Cameroun justement défiera l'Algérie pour essayer d'engranger un deuxième succès de rang.
Ziyech et Belanda forfait contre la Tunisie.
Fraîchement qualifié pour la CAN 2019, le Maroc devra se passer de deux de ses milieux créateurs pour le match amical face à la Tunisie. Aujourd'hui même, touché à la cuisse et remplacé à la mi-temps vendredi dernier face au Cameroun, Younes Belanda a dû se résoudre à renoncer, tout comme Hakim Ziyech, auteur d'un doublé face aux Lions indomptables mais victime d'un coup au genou.
Denis Bouanga s'excuse auprès du public gabonais.
Toutes mes excuses au peuple gabonais pour le match que j'ai effectué contre le Mali. Je tâcherai de me rattraper au prochain match contre le Burundi pour les éliminatoires de la CAN 2019 au Cameroun. Et encore merci d'être venus nombreux au stade pour nous encourager, a écrit l'attaquant des Panthers sur son compte Twitter. En l'absence de Pierre-Emerick Aubameyang et de Mario Lemina, Denis Bouanga était attendu comme le fer de lance de l'attaque gabonaise lors du match décisif face au Mali, perdu 0-1 samedi dernier dans les éliminatoires de la CAN 2019. Malheureusement pour lui, l'ailier de Nîmes n'a pas été en mesure de répondre aux attentes et la Panthère a tenu à présenter ses excuses donc à la suite de cette défaite qui met son équipe en difficulté. NBA, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière.
Charlotte et Boston 117-112, Détroit et Cleveland 113-102, Indiana et Utah 121-94, Phoenix et Philadelphie 119 à 114, Memphis et Dallas 98 à 88, Milwaukee et Denver 104 à 98, La Nouvelle-Orléans et San Antonio 140 à 126.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, Emmanuel Ramazani Shadary, le candidat du Front commun pour le Congo, la famille politique du président sortant Joseph Kabila, a présenté le plan qu'il compte mettre en œuvre s'il était élu le 23 décembre à la tête de son pays. Les points saillants de ce programme, doter le pays d'un budget d'au moins 86 milliards de dollars, valoriser l'homme congolais, lutter contre la corruption, renforcer l'autorité de l'État et donner aux Congolais l'accès aux services sociaux de base, ainsi que le renforcement du rôle géostratégique de la République démocratique du Congo. Eddie Sango a recueilli la réaction du président de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, Ernest Mpararo.
Nous avons déjà entendu ce genre de discours parce que le chef d'État actuel l'a toujours prononcé publiquement lors des discours à la nation. Il a toujours dit effectivement qu'il va lutter contre la corruption, mais en pratique, nous ne voyons pas ces actes de lutte contre la corruption. Et ces actes devraient déjà impacter les conditions de vie des citoyens.
Le budget de la RDC est aujourd'hui d'au moins tout autour de 5 milliards de dollars. Par quelle magie, lui comme tous les autres atteindront du jour au lendemain des sommes aussi faramineuse que 86 milliards.
Nous pensons que si vraiment il lutte réellement contre le détournement des données publiques, contre la fraude, contre la vente des actifs miniers, contre la mauvaise gouvernance en général, je suis sûr et certain qu'annuellement, effectivement, il peut avoisiner 20 milliards de dollars. Donc, ce qui fait que sur les 5 prochaines années, il peut arriver à ce montant-là.
Est-ce que ce n'est pas juste un discours propagandiste ou démagogique à quelques 2 jours du début de la campagne électorale?
Suite à l'expérience que nous avons avec le régime actuel, nous pouvons dire effectivement que c'est de la démagogie, étant donné que le chef de l'État lui-même actuel, il était au pouvoir depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, et à preuve du contraire, en matière de gouvernance, en tout cas, il n'a que 1%.
Si en 17 ans, ce régime n'a pas pu valoriser l'homme, ils pourront le faire sur l'Élysée, comme ils le disent.
En Angola, ils avaient les mêmes problèmes comme nous, mais lorsqu'il y a eu le nouveau président, il a commencé à réformer l'État. Nous pensons aussi que si Shadary a cette volonté, il peut le faire. Mais s'il n'a pas, il veut la continuité en mettant en place des politiques qui ne tiennent pas compte effectivement de l'homme, ça sera seulement un discours démagogique et il n'y aura pas de changement comme les Congolais le veulent.
Tous les autres candidats disent la même chose. Ils vont placer l'homme congolais à l'avant, ils vont améliorer la sécurité, combattre la corruption. Est-ce que ce ne sont pas des vœux pieux? Tous les discours sont quasiment le même aujourd'hui.
Nous leur donnons les doutes et c'est comme ça que nous disons tous ces candidats, s'ils ne luttent pas contre la corruption, tous ceux qui ils disent que c'est de la démagogie. Mais s'ils commencent à lutter contre la corruption, s'il y a un président qui est élu et qui commence à lutter contre la corruption, nous pensons qu'il peut réaliser tout ce qu'il a promis aux électeurs.
Est-ce que ce discours est en adéquation avec ce qui se passe déjà maintenant? Les autres candidats, par exemple, demandent à la CENI de disqualifier Shadary parce qu'il utilise les biens et les personnels de l'État pour sa campagne maintenant.
Si ces discours sont en contradiction avec tout ce qu'il pose comme acte, à ce moment-là, on peut dire que non, c'est un démagogue, c'est un monsieur qui est venu seulement pour chercher des voix, mais à la fin, il ne fait absolument rien.
Ernest Mpararo, président de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption.
VOA Afrique, 24h/24, à Kisangani, en RDC, sur 97.7 FM.
Au Togo, le mouvement patriotique pour la paix et le développement, une formation de l'opposition, s'apprête à participer aux législatives annoncées pour le 20 décembre. Contrairement à la coalition de 14 partis de l'opposition qui, elle, a déjà annoncé qu'elle va boycotter le scrutin, le MPPD fait appel à, je cite, « tous les patriotes en vue de réaliser ensemble l'alternance de manière pacifique au Togo ». C'est du moins ce qui ressort de l'interview accordée à Irénée Herman Ongbo par le président du MPPD, Agbeyome Kodjo.
Je vous rappelle que l'opposition togolaise est plurielle et que moi je sors d'une convention nationale le 20 octobre 2018 et la convention, par une résolution, demande donc de prendre part aux prochaines élections et de lutter pour que les conditions de transparence et d'impartialité donc soient réunies. De ce fait, nous déposerons, comme la loi dont le recommande, nos dossiers pour prendre part à cette élection, tout en continuant de négocier avec le pouvoir pour que les conditions soient les meilleures possibles pour permettre donc le renouvellement de l'Assemblée nationale dont la législature est arrivée à terme.
Que pensez-vous alors de la coalition des 14 partis de l'opposition avec à leur tête Jean-Pierre Fabre qui estime que les conditions ne sont pas réunies pour des élections libres et transparentes?
Nous estimons que à partir du moment où les conditions, notamment donc la parité de la CENI, a été acquise, il faut que donc cette opposition des 14 prenne sa place au sein de la CENI et demande à voir le chronogramme et également examiner le résultat donc du recensement. Et à partir de ce moment, s'ils considèrent là-bas, donc au niveau de la CENI, qu'il y a des manquements, si les manquements de tout le monde sont fondés, nous sommes prêts de nous à les appuyer et dicter de nouvelles conditions avant de prendre part aux travaux de la CENI, sans participer à une logique du moins qui n'est pas de moins à la nôtre.
À vous entendre, l'opposition togolaise est divisée. N'est-ce pas une fenêtre laissée ouverte pour une éventuelle victoire du RPT?
Nous avons toujours pour les souhaiter, en tout cas l'union de l'ensemble de l'opposition. Nous avons fait des expériences donc à la matière et ça donne des résultats probants. Il se trouve que pour les dernières négociations politiques, l'opposition radicale a estimé que ceux qui n'étaient pas dans la rue avec elle n'ont pas droit de prendre part au dialogue. Je crois que c'est là où le schisme s'est créé parce que nous avons cru à la synergie des talents, mais on ne peut pas dire que certains sont plus opposants que d'autres. Parce que, moi je vous rappelle hein, que c'est depuis 2002 que nous avons appelé du monde à faire des réformes. Mais au moment où nous appelions à faire des réformes, nous ne marchions pas dans la rue. Nous étions aux affaires, nous voyons les dangers arriver. Donc je pense que le fait de boycotter une élection aussi, c'est un choix de toute façon démocratique. C'est une posture du monde démocratique. Mais je rappelle que ce contre quoi de toute façon il lutte aujourd'hui, c'est du moins, comment je disais, par le boycott. Il y a les statuts donc, de 2002, okay, ils ont appelé donc, les populations à ne pas prendre part.
Joint à Lomé, Agbeyome Kodjo, président du mouvement patriotique pour la paix et le développement.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Retour sur la campagne pour la présidentielle du 16 février 2019 au Nigeria, dont le coup d'envoi a été donné hier par le président sortant Muhammadu Buhari de l'APC et son principal rival Atiku Abubakar du PDP. Comment les Nigérians apprécient-ils les programmes de gouvernement qu'ils ont respectivement dévoilés à cette occasion? Reportage de notre correspondant sur place, Gilbert Tamba.
Comme le prévoit la constitution du pays, la campagne pour l'élection présidentielle au Nigeria commence 90 jours avant le jour du vote et prend fin 24 heures avant le vote. Le parti au pouvoir, APC, a présenté son programme hier à ses partisans réunis autour du candidat président à la villa présidentielle d'Abuja. Cependant, beaucoup de Nigériens doutent de la capacité du président sortant de tenir ses nouvelles promesses. C'est le cas de Salahuddin Hashim.
Notre président actuel nous a ramenés dans la récession ces trois
dernières années. Il a mis notre capital dans la pauvreté. Donc la question maintenant, c'est de savoir si cette personnalité a la capacité de nous faire avancer. C'est un grand doute.
C'est sur sa page Facebook que le candidat du principal parti d'opposition, Atiku Abubakar, a lancé sa campagne en donnant aussi les grandes lignes de son programme pour les prochaines 4 années s'il est élu président. Son slogan, c'est « Ensemble, remettons le Nigeria au travail ». Et il promet notamment la création de 3 millions d'emplois chaque année et de sortir quelques 50 millions de Nigériens de la pauvreté. Mais il y a une question fondamentale souvent soulevée par les électeurs.
If it can be done, the question is how.
Si cela peut se réaliser, la question c'est comment. Et c'est ce que nous allons chercher à savoir pendant cette campagne. Comment vous allez le faire? Le gouvernement actuel avait fait les mêmes promesses. Ils avaient promis de donner 5 000 naira à des millions de gens. Ils avaient aussi promis la création de millions d'emplois. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché?
Plus de 80 millions d'électeurs nigériens sont appelés aux urnes en février pour élire le président de ces géants de l'Afrique avec 200 millions d'habitants. Les Nigériens devront choisir un homme qui pourra permettre au Nigeria de garder son rang de première puissance en Afrique, mais aussi d'améliorer sa situation sécuritaire, comme le reconnaît Emmanuel Mwobiko, un activiste des droits humains.
La sécurité est aussi un grand problème. La situation est telle que beaucoup de Nigériens quittent le pays pour protéger leur vie, éviter d'être attaqué ou de se faire enlever. Les criminels sont partout dans le pays, il n'y a pas de sécurité.
Pendant les prochains 3 mois donc, les candidats devront sillonner ces grands pays composés de 36 États, plus la capitale fédérale, Abuja, pour tenter de convaincre les Nigériens. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Nous le disions hier, l'Union africaine a adopté certaines des réformes proposées par le président rwandais Paul Kagame à l'occasion d'un sommet extraordinaire à Addis Abeba. Un des points de discussion était le financement de l'organisation. Morgan Guiriek a joint Ibrahim Makan, directeur du bureau de plaidoyer de l'Open Society Foundations auprès de l'Union africaine à Dakar, au Sénégal.
Ils se sont entendus sur le pourcentage ainsi que les modalités de contribution des États. Il y a des États qui appartiennent à des communautés économiques, comme par exemple l'UEMOA, la CEMAC. Puisque l'argent passe par les banques centrales, il faudrait que les banques centrales s'arrangent. Ça pose quelques problèmes techniques. Mais ce qui est plus important dans cet aspect du financement, c'est le fait que les États ont aussi décidé que maintenant les récalcitrants paieront plus cher et n'ont que 2 ans au lieu de 5 pour vraiment régler leurs arriérés.
Qu'est-ce que ça va changer pour l'Union africaine?
Actuellement, le budget qui est en cours est financé à presque 60% par les États européens. Alors, vous savez que qui finance décide de l'agenda. Cela est quand même impensable pour une organisation qui veut dédier toute son attention aux problèmes de l'Afrique et trouver des solutions africaines aux problèmes africains. La CEDEAO expérimente ce procédé depuis une dizaine d'années. Et le niveau de contribution extérieure au budget annuel de la CEDEAO est de l'ordre de 5%.
Le président Kagame prévoit aussi de changer le processus de désignation au sein de la Commission de l'Union africaine. Est-ce qu'il y a un consensus sur cette question?
Ce qui s'est dégagé au niveau du fonctionnement de la Commission, c'est d'abord la réduction du nombre de commissaires de 10 à 8. C'est quand même une économie assez substantielle vu qu'un commissaire coûte à peu près 500 à 1 million de dollars. Dans le recrutement comme dans l'évaluation, il y aura beaucoup, beaucoup d'éléments de contrôle, de supervision de la part de l'Union. Avant, un commissaire pouvait demander à être réélu sans que l'on regarde de près le mandat passé. Maintenant, ça, ce n'est plus possible. Il va falloir passer par un système d'évaluation. Et le dernier élément, c'est aussi les méthodes de recrutement du personnel. Ce ne sera plus le copinage, le parrainage par des directeurs ou des commissaires. Ce sera un système beaucoup plus transparent.
Ibrahim Khan, directeur du bureau de plaidoyer de l'Open Society Foundations auprès de l'Union africaine à Dakar, au Sénégal.
Raissa Girondin avec vous. Dans Washington Forum, coup de projecteur sur le consommer local. Tous les 20 novembre, les pays africains célèbrent la journée de l'industrialisation de l'Afrique à travers la promotion de produits locaux. En dépit du patriotisme économique, le consommer local fait face aux défis de la qualité des produits et au complexe du produit étranger. Quels sont les produits que votre pays peut valoriser? Êtes-vous prêt à les acheter un peu plus cher pour soutenir l'économie nationale? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.